Adia, c'est avec Oliver Ngoma sur la fréquence de la paix. Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kisangani dans la province de la Tchopo. Et c'est l'heure de vous informer.
Radio Kapi.
Le journal. Dona Madimba à la présentation.
Bonsoir à tous et bienvenue au journal du soir sur Radio Okapi. La République démocratique du Congo invite la communauté internationale à s'approprier les cas de génocide perpétrés depuis plus de 30 ans à l'est de la RDC. Le ministre des Droits humains qui a dénoncé cette situation ce vendredi à Kinshasa parle des tueries, assassinats, viols, kidnappings et incendies de maisons qu'il attribue aux rébellions pro-rwandaises actives dans la région. Nouvelle réalité retrouvée pour le pays des léopards. La RDC a repris ce vendredi sa voix perdue depuis 33 ans au sein de l'Union postale universelle. Cette opération a eu lieu au cours du 28e congrès de l'UPU qui se tient en ce moment à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Du coup, le ministre des Postes a invité le pays à repenser sa poste. Nous recevons dans ce journal le député national Jethro Muyombi, cadre de l'Union sacrée de la nation. Il s'exprime notamment sur la question des pétitions visant certains membres du bureau de l'Assemblée nationale de la RDC, mais dévoile en même temps, selon lui, les solutions possibles à cette situation. Le ministre des Droits humains de la RDC invite la communauté internationale à s'approprier des cas de génocide perpétrés depuis plus de 30 ans à l'est de la RDC. Samuel Mbemba l'a dit lors du point de presse tenu aujourd'hui à Kinshasa. Le ministre parle de crimes graves, notamment des tueries, assassinats, viols, kidnappings et incendies de maisons qu'il attribue aux rébellions pro-rwandaises actives dans la région. Ce membre du gouvernement de la RDC estime qu'il est temps que la communauté internationale reconnaisse ces actes de génocide et prenne ses responsabilités. Pour en finir, les propos de Samuel Mbemba sont recueillis par Blaise Ndongala.
Le Rwanda et ses supplétifs AFC M23 poursuivent leurs actes odieux de massacres tels que ceux de Kishishe, Kibumba, Kichanga, Maboya, Kanyabayonga, Buito, Minova et Goma. Considérant les preuves irréfutables, j'alerte le monde entier sur le fait que les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo sont des actes de génocide qui doivent interpeller la conscience universelle. J'appelle l'opinion nationale à s'approprier le combat de la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. J'en appelle aussi à la communauté internationale face à l'évidence des rapports crédibles émanant de ses propres organes, donc les organes des Nations Unies, d'être solidaires avec les victimes du génocide en République démocratique du Congo.
Justice toujours, Jacky Ndala a enfin obtenu la liberté conditionnelle pour raison de santé. Les démarches administratives sont en cours afin qu'il quitte la prison centrale de Makala aujourd'hui même, si tout va bien, pour aller à l'hôpital et y être soigné. Précision de maître Eric Bisselo, un des avocats de l'ancien journaliste. L'avocat se réjouit de cette décision de la justice tout en regrettant l'état dans lequel son client est enfin rendu à sa famille. Maître Eric Bisselo est joint par Babel Pongo.
Effectivement, dans les principes, suite à l'audience qui s'est déroulée le mercredi pour la demande de liberté conditionnelle pour des raisons médicales, il s'avère que la décision était tombée hier soir. Nous l'avons obtenue effectivement. Cependant, il reste quelques formalités administratives à remplir, notamment il y a mes confrères et puis sa femme. Et puis nous allons là, effectivement, voir si la logique de l'État va jusqu'au bout, c'est-à-dire de lui accorder la liberté. Mais bien entendu, son état de santé est assez préoccupant. Il devrait être en dehors de prison Makala ce vendredi. Il doit être hospitalisé. hospitalisés dans les heures à venir. Mais il est vrai que l'état dans lequel nous rendent le système judiciaire et les acteurs politiques fait que nous sommes un peu dubitatifs puisqu'il doit être soigné et on ne sait pas s'il y aura des séquelles irréversibles encore à son état de santé. Mais dans tous les cas, nous nous réjouissons qu'enfin qu'il puisse être pris en soin par sa famille, par ses proches, dans des conditions dignes de ce nom.
À Mwenga Centre, dans le sud Kivu, les activités socio-économiques ont repris aujourd'hui vendredi. Cette reprise intervient au lendemain des accrochages entre deux groupes armés locaux, des affrontements qui auraient coûté la vie à au moins 8 personnes selon des sources locales. Ronéline Timbonera.
Ce matin, boutiques, magasins et marchés ont rouvert leurs portes. Le rue de Mwenga Centre, repité animé, accueille à nouveau du monde. Les transports en commun, paralysés mercredi et jeudi, ont repris. Plusieurs mototaximens sont visibles sur les principales artères. Un habitant joint indique qu'aucun coup de feu n'a été entendu depuis hier soir. Pour les opérateurs économiques, cette accalmie est cruciale pour assurer les trafics entre Mwenga et Kamituga d'une part et entre Mwenga et Bukavu d'autre part. Des sources de la société civile confirment que Mwenga Centre est sous contrôle de forces armées de la RDC. Hier jeudi, des violents combats ont opposé des groupes Wazalendo dans la zone. L'un des groupes dirigé par le général autoproclamé Nyakaliba s'est opposé à la mesure des autorités provinciales du Sud Kivu visant à supprimer les barrières illégales dans la région. Ces décisions ont provoqué des accrochages qui ont paralysé toutes les activités. Des acteurs présents sur le terrain indiquent que lors de ces affrontements, au moins 8 morts et de nombreux blessés ont été enregistrés. Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire de Mwenga a promis de nous revenir après la réunion avec les parties prenantes.
Dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Beni, plus précisément, l'insécurité refait surface dans la commune rurale de Mangina, située à 30 km de la ville de Beni. La société civile communale parle d'un groupe d'hommes armés qui opèrent dans différents quartiers de cette commune. Mercredi dernier, par exemple, des individus armés ont pu identifier surgir dans un hôtel un centre commercial de Mangina, blessant au couteau un client. Ils ont emporté une importante somme d'argent ainsi que d'autres biens de valeur du tenancier de l'hôtel et des clients. La société civile communale appelle la population à collaborer avec la police. Mwongozi Kakule Nyuntatsi, son président, le dit au micro de Marc Marot.
Pendant que nous sommes en train d'alerter sur la présence de l'ennemi aux environs de Mangina, comme nous le disions que Mangina est sous menace, voilà que aussi en interne, il y a d'autres bandits qui sont en train de déstabiliser l'entité. Cela, nous comprenons que ça doit interpeller les services de sécurité et nous-mêmes de la population. C'est là où nous exigeons la collaboration entre les services de sécurité et nous, la population, pour que nous puissions mettre une barrière contre tout ennemi qui peut arriver à déstabiliser la quiétude de la population à commune de Mangina.
Le trafic est de nouveau interrompu à la hauteur du pont Bundwe dans le territoire de Bukama dans la province du Haut-Lomami. L'administrateur du territoire a annoncé une suspension pour 5 jours depuis mercredi d'après l'administrateur du territoire. Durant ce temps, les agents de l'Office des routes travaillent pour remplacer les traverses et les tôles qui soutiennent ce pont. Et donc, plusieurs véhicules sont à nouveau positionnés de part et d'autre du pont en attendant la fin des travaux. Ces véhicules viennent pour la plupart de l'espace Grand Kasaï à destination du Haut Katanga et vice-versa. Et pourtant, les marchandises sont encore positionnées, mais également les passagers. Un accident routier fait des victimes à Watsa dans la province du Haut-Touélé. Un prêtre catholique tamponné par un camion citerne est décédé sur place. La population en colère s'est ruée sur le chauffeur et son collaborateur, les lapidant à mort. Compte rendu de Jacques Boukokole.
L'abbé Emmanuel Mandukisebo a été tamponné par un camion citerne en provenance de la ville de Sirou. Selon le président de la société civile locale, l'homme de Dieu était en train de traverser la route. En ce moment, arrive un camion citerne roulant à vive allure. Le conducteur n'a pas réussi à freiner, le sol étant glissant à la suite de la pluie. Jean-Pierre Attidri précise qu'après la survenue de l'irréparable, la population en colère a récupéré le chauffeur et son aide et les a passés mortellement à tabac. Acheminé à l'hôpital, le personnel soignant n'a constaté que des corps sans vie, donc 3 morts au total. La société civile condamne la justice populaire et demande à la population de ne pas s'immiscer dans les affaires qui ne relèvent pas de sa responsabilité. Rappelons que l'abbé Emmanuel Mandukisebo avait été ordonné en mars 2008 par Mgr Julien Andavo, alors évêque du diocèse de Sirou-Niangara. Jusqu'à sa mort, il était administrateur adjoint de la quasi-paroisse de Sainte-Ruth de Kourouata dans le territoire de Ouatsa. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 48 ans. Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
C'est effectif et nous l'avons dit dans l'introduction de ce journal, la République démocratique du Congo reprend sa voix au sein de l'Union postale universelle. Elle vient en effet de retrouver le droit de parole et de vote perdu depuis 33 ans suite au non-paiement de ses contributions. Cette réalité a été rendue possible au cours du 28e congrès de l'UPU qui se tient à ce moment à Dubaï. Aux Émirats Arabes Unis, près de 160 pays du monde membres de cette organisation prennent donc part à ces assises et la RDC, y représentée par son ministre des Postes Télécommunications José Mpanda, le ministre qui salue ce retour à la considération de la RDC par l'Union Postale Internationale et le secrétariat général y voit également une occasion d'améliorer le fonctionnement de la poste appuyée par les nouvelles technologies. Richard Junior Kamunga fait le papier qui est rendu ici par Stanislas Diumi.
Tous ces pays, près de 160, échangent sur les technologies modernes qui entourent le secteur de la poste et des télécommunications. Une occasion aussi pour l'Union Postale Universelle de redonner de la voix à la RDC qu'il a perdue depuis plus de 30 ans. Cette institution spécialisée des Nations Unies, qui est le principal forum de coopération internationale pour le secteur postal au nord, la RDC, comme a reconnu sa délégation sur place, représentée par le ministre de Postes et des Télécommunications, deux experts du secrétariat général, ainsi que ceux de l'autorité des régulations de postes et télécommunications du Congo, ARPTC. José Panda s'est ainsi félicité du droit de vote et de la parole de la RDC dans cette institution spécialisée des Nations Unies, tenue à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il reconnaît en même temps que ce 28e congrès est une opportunité précieuse pour la RDC de valider ses stratégies et partager ses expériences, car, dit-il, la poste n'est plus seulement un service de courrier, mais plutôt une infrastructure vitale qui joue un rôle crucial dans le développement du commerce électronique, de l'accès aux services publics et des connectivités des zones rurales et isolées.
Province du Sud-Kivu, une fois encore, l'état des toilettes dans plusieurs écoles de Bukavu représente un danger public pour la santé des élèves. Dans ces latrines situées dans diverses communes de la ville, les saletés sont vues à nu. Situation inquiétant la société civile qui, de son côté, tire la sonnette d'alarme. Ronelly Timbonera, nous te retrouvons une fois de plus.
De nombreuses écoles publiques et privées de la ville de Bukavu ne disposent pas de toilettes propres. Dans le commune de Kadutu, Bagira et même dans certaines écoles de Kabaré, les élèves peinent à se soulager pendant les heures de récréation confinées sur ces locales. Les matières fécales sont partout et l'eau ne coule pas des robinets. Les services chargés de l'entretien des latrines sont inexistants. Ils ne disposent pas des produits nécessaires pour rendre propres ces toilettes. Cette situation expose les élèves à de nombreuses maladies. Pour la nouvelle dynamique de la société civile, il est inadmissible que le membre de la communauté reste indifférent face à cette triste réalité. Wilfried Abamungu, rapporteur adjoint de cette structure, appelle à des actions urgentes.
Nous appelons les responsables des écoles et les promoteurs à prendre au sérieux la question de l'hygiène en milieu scolaire. Il est donc impératif d'entreprendre des actions concrètes pour garantir que toutes les écoles de la ville de Bukavu et ceux de nos différents territoires disposent d'installations sanitaires fonctionnelles et propres afin de protéger la santé des enfants et leur offrir un cadre d'apprentissage sain.
Notez enfin que selon l'UNICEF, en RDC, 12% de la population continue à déféquer à l'air libre malgré les conséquences néfastes sur la santé, notamment celle des enfants.
La rentrée scolaire est encore timide à l'école Oasis située à Kolwezi dans le Lualaba. Cette école privée qui travaille sous la supervision de la division des affaires sociales du Lualaba encadre gratuitement les enfants aveugles et malvoyants. Son coordonnateur appelle les parents à envoyer leurs enfants étudier au lieu de les laisser à travers les rues où ils s'adonnent à la mendicité. On écoute Caleb Mboum, coordonnateur de l'école Oasis, joint par Jean Gandou.
Oasis est une école spécialisée en écriture braille et informatique adaptée aux enfants vivant avec handicap visuel, donc les aveugles et les malvoyants. Cette structure est la seule qui encadre cette catégorie de personnes dans la province du Lualaba et elle est en sa deuxième année d'existence. Les difficultés sont énormes, notamment la prise de connaissances de celle-ci par les parents qui ont des enfants aveugles. Beaucoup de parents ne savaient pas qu'un enfant aveugle pouvait étudier et qu'il y avait une écriture lisible avec les doigts. Cette écriture en relief pouvait aider cet enfant à s'intégrer dans les milieux éducatifs et à être au centre de l'enseignement inclusif. Et nous avons constaté que la rentrée de cette année est très timide parce que les parents ne sont pas informés. C'est ainsi que nous faisons appel à tous les parents de la province du Lualaba. Amenez vos enfants aveugles et malvoyants à l'école chez nous à Oasis. Nos portes sont ouvertes et c'est gratuit.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC donc, la France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français, a appris l'agence France Presse aujourd'hui vendredi de sources diplomatiques françaises. Les deux diplomates membres de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris ont été déclarés persona non grata et ont jusqu'à samedi pour quitter le territoire, a déclaré cette source.
L'invité.
Notre invité est le député national Jethro Muyombi, cadre de l'Union sacrée de la nation. Il s'exprime notamment sur la question des pétitions visant certains membres du bureau de l'Assemblée nationale de la RDC. L'élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga propose aussi des solutions pour mettre fin à l'instabilité observée tant au gouvernorat de la province qu'à la mairie de la ville cuprifère. Jethro Muyombi s'entretient avec Alain Irung.
Monsieur le député Jethro Muyombi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
La session de septembre s'est ouverte le 15 septembre dernier sur fond de tensions avec des pétitions visant certains membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. Que faudrait-il, selon vous, pour que cette session, qui est essentiellement budgétaire, soit apaisée?
La première des choses pour que la session de septembre soit apaisée, c'est ce que tout le monde doit comprendre, que il y a les instruments d'épée, c'est entre autres la loi. Nous avons, par exemple, au niveau de notre assemblée, le règlement intérieur. Il faudrait qu'on accepte de le respecter. La démocratie aujourd'hui, nous avons la constitution qui est un instrument aussi de travail au niveau de l'assemblée. Si on respecte tout cela et que tout se passe tel que le veut la loi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le changement, c'est un fait. Il peut être positif ou négatif, mais c'est ça un fait, ça peut arriver. Ça ne peut pas être la fin du monde. Et comme nous sommes dans la démocratie, il est vrai que la question de pétition est là. Il faudrait seulement que ça soit traité comme ça doit être traité. Et après ça, ça sera déposé dans une plénière et puis les députés vont pouvoir voter. Et lorsqu'ils vont voter, il faudrait qu'on accepte les décisions qui ressortent de ces votes-là. C'est ça même la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie, et les mettre en application correctement, et puis tout ira très rapidement.
Vous revenez des vacances parlementaires. Quels sont les principaux problèmes dans votre circonscription électorale de Lubumbashi?
Le problème, il y en a autant, mais on peut peut-être épingler quelques-uns qui nécessitent des actions urgentes. C'est notamment la question de l'insécurité, par exemple, les braquages et tout ce qu'il y a comme les enfants de la rue qui augmentent encore ces derniers temps. Il y a le problème de route aussi. Nous sommes pendant la période sèche, mais bientôt, c'est la saison de pluie. Il y a un sérieux problème avec autant de routes qui connectent la ville, mais aussi les routes des dessertes agricoles aussi tout autour de la province.
Parmi les problèmes qui dérangent la province du Haut-Katanga, il y a cette instabilité tant au niveau du gouvernorat que de la mairie de la ville de Lubumbashi. Quelles sont selon vous les solutions durables pour mettre fin à cette instabilité?
Oui, ça c'est une réalité. Il y a le problème au niveau du gouvernorat, il y a le problème au niveau de la mairie. Quelles sont les solutions? Moi je pense que ce sont des choses qui doivent se discuter au niveau de notre famille politique, donc au niveau de l'Union sacrée. Une orientation claire doit être donnée par la haute autorité de notre famille politique. Et tout ce que je vais demander, c'est que aussi tout le monde doit être correct et honnête et suivre l'orientation donnée par l'autorité de la famille politique. Parce que vous ne pouvez pas être dans une famille politique où vous vous permettez de faire des choses qui ne corroborent pas avec la vision de celui qui est le responsable de la famille politique. C'est comme dans une maison, il y a un père, et c'est le père qui doit édicter la ligne de conduite de cette famille-là. Et tous les enfants, tout le monde, même ceux qui ne sont pas enfants, qui habitent là, doivent suivre cette ligne de conduite. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau-là que les choses doivent s'orienter clairement.
En quoi a constitué votre restitution à votre base sur les principales lois votées au cours de la session de mars dernier?
La session de mars passé était essentiellement sur le contrôle parlementaire. Il y a eu autant de questions orales avec débat essentiel. C'est un certain nombre de lois qui ont été aussi adoptées, votées, parmi lesquelles nous retenons la loi de la programmation de la police qui permettra au ministère des Affaires intérieures de pouvoir recruter, former les policiers, de pouvoir doter les policiers, de pouvoir renforcer cette question de la sécurité au niveau de l'intérieur de notre pays. La ville a sérieusement connu un épanouissement, elle s'est agrandie, alors qu'aujourd'hui nous n'avons que la cartographie très ancienne, mais aussi qui ne permet pas facilement même à la police lorsqu'ils doivent intervenir de très loin. Peut-être qu'ils ne retrouvent pas les adresses correctement et il y a un problème des routes pour accéder aussi sur les liens.
Monsieur le député Jethro Muyombi, je vous remercie.
Merci, monsieur Hiron.